Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
Notre invité d'aujourd'hui, dans le privé, vous seriez tenté de l'appeler Stéphane Pouliot, mais nous, on va l'appeler Sébastien Delorme. Bonjour, Sébastien Delorme.
Salut.
Comment s'est passé les vies en 2020?
Comment dire? Incertaine, ouais.
Un petit genre?
On s'adapte. On s'adapte avec tout ce qui se passe. Puis, c'est ça. On ouvre les horizons vers d'autres choses. Puis, on est résilient. Puis, on demande un peu la même chose à tout notre entourage. Puis, ça va être la même chose pour le temps des fêtes.
Mais en même temps, l'équipe de District 31 a eu un rôle particulier dans le cadre de la pandémie. Il y avait des gens qui comptaient sur votre retour pour penser à autre chose.
Oui, puis je pense que ça marche parce que effectivement, il n'y a pas un maudit masque pendant la série. On ne parle pas de ça, on fait comme si de rien n'était, puis ça aide effectivement à faire penser à autre chose. Même si ça ne va pas très bien tout le temps dans le district. Là.
Non.
On arrête bien les bandits, puis il y a bien des gens qui meurent, puis il y a bien... Puis on a bien des problèmes avec Nick Romano et François Labelle, puis ainsi de suite. Là.
Ça n'arrête jamais.
Ben oui.
Ben d'ailleurs, ça n'arrête pas depuis plusieurs saisons.
On n'est pas capable de mettre la main dessus.
Toi, tu faisais partie de la distribution à la base.
Oui.
Donc, t'es un des... Quand on y pense maintenant, t'es un des rares qui a été là depuis le tout début.
Il y a Gildor, il y a Vincent Gildor. Guillaume et moi.
Après ça, ça a été des ajouts.
Ouais, Michel Charrette est arrivé un petit peu plus tard.
On a l'impression qu'il est là depuis le tout début.
Il est arrivé un mois parce qu'il tournait, je pense qu'il tournait Les Pays d'en haut à ce moment-là. Fait qu'il pouvait pas être avec nous autres. Fait que j'ai un petit 3-4 semaines d'avance sur lui.
Oui, mais c'est de ça dont on se rappelle quand on fait le score final.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a une formule, parce que District 31, pour une quotidienne, déjà, si c'était une hebdomadaire, les chiffres seraient renversants.
Je sais pas.
Le devoir...
Je sais pas, j'ai l'impression que les habitudes ont changé, mais du moins, District 31 a changé les habitudes de télévisuelles. Puis moi, ne serait-ce que j'ai jamais joué dans une série, moi, qui interpellait à la fois autant les hommes que les femmes.
Et c'est multigénérationnel aussi.
Et en plus, c'est multigénérationnel, ce qui fait que là, j'ai vu les chiffres qui sont sortis. On était à 1,9 million pour la semaine du 9 novembre, ce qui est extraordinaire.
Parce qu'il faut dire que l'entrevue est préenregistrée.
Oui, on est avant Noël là, quand même.
On ne se gêne pas pour le dire.
Oui.
Mais ces chiffres-là sont étonnants. En même temps, le rendez-vous intergénérationnel, le fait que ce soit à 19h, c'est une des rares émissions qui est maintenant programmée, qui s'adresse à tout le monde.
Oui. Ouais.
Et tout le monde est au rendez-vous aussi.
Oui. Puis tout le monde m'appelle Popo. C'est rendu mon hey quand je passe sur la rue, puis hey, c'est Popo, puis Popo, hey. Puis il y a même un gars qui a fait une bière qui s'appelle Allez Popo pour. Pour Raymond Poulidor, qui est un ancien coureur cycliste, c'est ça. Puis il a appelé sa bière comme ça. Fait que là, les gens ils m'envoient des photos de ma bière. Je dis, ce n'est pas ma bière, c'est Raymond Poulidor qui a maillot jaune, je ne sais pas quelle année.
Non, mais c'est Poulidor, lui, dans sa vie, c'est qu'il était numéro 2.
Ah oui, OK.
Oui, c'était un bon deuxième.
Derrière Eddie Merckx, genre?
Derrière tout le monde. Okay. Il était toujours numéro 2. Il y avait toujours un numéro 1 qui passait devant lui.
Bon.
Mais dans le cas de Poupou, par exemple, l'attachement qu'on a pour ce personnage-là, On peut bien appeler Sébastien Delorme, Stéphane Pouliot partout.
Ben oui.
Parce que même si c'est pas un personnage particulièrement attachant, il est un peu abrasif, ses barbes.
Ouais.
Mais on l'aime beaucoup quand même.
Mais écoute, si t'avais à dealer avec des bandits, des mafiosos, c'est sûr que ça changerait peut-être la façon polie de t'adresser aux gens.
Ouais.
Tu serais un peu plus cocky. C'est la façon de se répondre, puis d'être bête, d'être direct, d'essayer d'impressionner l'autre, d'essayer d'avoir le dessus, de voir la faille dans l'autre. C'est ce que ça permet de jouer ce rôle-là, c'est-à-dire d'être bien direct, d'être bien concret, puis d'être baveux à souhait, puis d'être menaçant en même temps. Puis...
Mais pour nous, téléspectateurs, c'est tout à fait agréable de voir ça, que des fois, le mal peut être mis en échec, mais pour un comédien, il doit avoir quelque chose d'un petit peu jouissif là-dedans, de pouvoir répondre du tac au tac à des menaces.
Oui,
t'as pas peur de grand-chose.
Il a pas peur de grand-chose. En plus, il y a souvent l'humour de Luc Dionne qui imprègne certaines de mes répliques. Fait que c'est toujours comme, je vais répondre de façon directe, mais en même temps, ça va être humoristique.
Mm-hmm.
puis ça va peut-être l'autre va avoir l'air un peu fou avec ce que je vais dire, puis tout le temps un jeu de coq, mais c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Puis en plus il y a des techniques d'enquête qui sont ma foi
un peu rock'n'roll
mais pour arriver à ses fins, qu'est-ce que tu veux,
c'est ça, il fait pas des enquêtes dans des troupes de baleines non plus,
non c'est ça. Puis tu peux pas tout le temps faire de l'écoute électronique puis faire passer des polygraphes et ainsi de suite, fait que tu te débrouilles comme tu peux, ben j'imagine que après ça d'arriver devant les magistrats c'est complètement différent.
Comme ça
là,
c'est l'affaire des autres.
C'est ça, c'est plus mon problème.
Toi t'as passé la tondeuse, c'est pas toi qui vas passer le râteau après.
Voilà.
Tu parlais de Luc Dionne tantôt. Est-ce que tu penses que ton personnage de Stéphane Pouliot c'est celui qui est le plus près de la personnalité de Luc Dionne? Où tout le monde a un peu de Luc Dionne en soi, dans son personnage?
Ben, au niveau de l'écriture, c'est quand même... j'imagine que c'est Vincent Guillaume quand même qui... c'est à travers lui que, ouais. Qui est comme la trame narrative de l'histoire. T'sais, ne serait-ce que par sa présence et la quantité de textes qu'il a à apprendre, j'imagine que Luc doit quand même... Peut-être la partie auteur, effectivement, va passer à travers... À travers le personnage de Vincent Guillaume. Sinon, pour avoir rencontré Luc une couple de fois, il y a effectivement un langage direct, puis un peu comme Pouliot.
Et très pince sans rire.
C'est
pas quelqu'un aux éclats de rire, sauf comme.
Non.
Il y a toujours une petite pointe.
Non, puis en fait, comment je vais dire ça? Luc a une personnalité, quand tu connais pas très bien, qui montre, qui est tough, qui est comme, il connaît le milieu des bandits, puis la police, puis tout ça. Mais quand tu le connais dans le privé, c'est quelqu'un qui est tendre, qui est super sensible, fragile, lover, tout ça.
Ben c'est là qu'on le reconnaît dans vos personnages,
ouais,
parce que ça. Vous avez tous ce côté-là.
Oui, ben il y a une grande humanité derrière le personnage Luc Dionne, ou derrière le front, ben le ouais. Personnage, là, il se montre comme ça, probablement parce que, un peu comme tout le monde, ben, il se protège de sa sensibilité.
Tu parlais de la quantité de textes.
Oui.
Celle de Vincent Guillaume-Baptiste, oui, je veux bien, là. Uh-huh. Mais la vôtre, c'est quand même pas pire. Toi, dans des épisodes, on te voit souvent,
oui.
Là, 60% du temps, même plus. Comment, puis c'est une quotidienne.
Oui.
Premièrement, quand apprenez-vous vos textes?
Uh-huh. Hey, écoute...
Puis la quantité des... Parce qu'il y en a du dialogue là-dedans. C'est pas une série qui est basée sur les longs silences. Là.
Et surtout, l'action et les explosions, les accidents de voiture, non, pas du tout. On parle.
Ouais.
Mais au début, c'est je pense il y a 5 ans, c'était une panique, carrément, par rapport à la quantité. Parce que je fonctionnais pas comme ça. C'était des séries, il y avait beaucoup moins d'épisodes, ça parlait moins, c'était moins technique aussi. Mm-hmm. C'était plus une mémoire comme émotive par rapport à des intrigues qui étaient plus relations humaines. Ouais. Tandis que là, c'est y a des termes policiers, des termes au niveau légal, ainsi de suite. Puis ne serait-ce que quand tu dis les droits, vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous dites. Là, ça a pris du temps avant de l'apprendre, c'était... Moses de réplique.
Il y a une caméra là.
Ah, oui, il y a une caméra là. C'est devenu un classique. Tout le monde l'a appris, mais nous autres, il faut que tu aies l'air sûr de toi. Fait qu'il faut que tu l'apprennes. C'est un Moses de réplique là, légal. Mais c'est ça. Au début, je passais énormément de temps à apprendre tout ce texte-là. Puis, il y a un entraînement qui se fait au fur et à mesure des 5 années, ce qui fait que maintenant, je suis au moins 10 à 15 fois plus efficace que ce que je faisais. Puis, tu découvres des techniques. Je me lève tôt le matin. Je me lève à 5 heures.
Oui, mais tout le monde dit que Sébastien Delorme, c'est un sportif pis tout.
Ouais.
Oui, mais non, mais c'est
quand on tourne, je le suis un peu moins.
La discipline.
Ouais.
La discipline, ça vient avec le deal, non?
J'ai découvert ma zone de confort, là. 5 heures le matin, il n'y a rien qui bouge dans la maison, les enfants dorment, tu te mets une petite lumière puis tu te concentres sur ton récit, ta trame narrative, puis c'est comme ça que j'ai développé mon efficacité.
Mais de toute façon, à la fin d'une journée de tournage, vous devez être complètement vanné.
On est entraîné. C'est sûr que...
C'est de l'ouvrage.
Oui, c'est de l'ouvrage, c'est sûr, mais avec les années, c'est fou comment on s'adapte, puis le je te dirais, j'ai encore plus de plaisir à le faire avec les années, moins stressé, moins angoissé, moins anxieux. La performance, le personnage nous habite. On sait comment l'autre. On entend l'autre quand on lit les textes. Bruno, il va me lancer ça. Il va me lancer la ligne. Puis rendu sur place, on fait juste comme peaufiner les affaires. Puis c'est les énergies qui se rencontrent. Puis
il y a une espèce de protocole sous-entendu déjà.
Ouais.
Parce que vous auriez pas le temps de faire ce que l'on appelle un blocking systématique de tout le temps.
Non.
Le plateau, c'est pas un site pour faire une assemblée générale pour débattre de toutes les décisions.
Hein? Non. On est devenu hyper efficace. On répète très peu. Puis on arrive à des résultats qui sont très, très impressionnants. Parce que c'est comme ça. C'est la façon de faire. Puis on a même développé une aisance par rapport à ça. Puis je te dirais, quand on se retrouve sur d'autres plateaux de tournage, on fait, mais on perd du temps ou on pourrait être plus efficace ou pourquoi vous prenez autant de temps pour déplacer votre éclairage alors qu'on pourrait tout de suite la faire. On est surentraîné, mettons, pour des acteurs.
Mais j'imagine que tout le monde est dans le même état sur le plateau, c'est-à-dire que pour personne qui a envie de venir à la remorque du reste du plateau en ne connaissant pas ses lignes, ses dialogues, tout le monde a envie d'arriver.
Mais ça n'arrive pas.
Non.
Du moins du cast principal. Puis on est quand même super accueillant avec la majorité des personnages qui viennent créer l'histoire.
Parce qu'il y en a des personnages occasionnels. Il y en a des méchants de gars.
Ça fait travailler du monde de l'Union des artistes. Là. Puis tu sais, on voit plein de monde passer de tous les âges. Mm-hmm. Puis ils ont une fierté d'avoir été pris pour justement défendre l'intrigue pendant une semaine, puis toujours un peu nerveux, mais notre job, c'est de les rassurer, de les calmer, de répéter autant qu'on peut avec eux autres, puis de faire « Regarde, on a le droit de se tromper. » Puis je nous soupçonne de se tromper un peu expressément pour faire descendre la tension moi-même, en tout cas.
Oui, mais pourquoi
pas? C'est ça. Ah, excuse-moi, je vais reprendre ma ligne. Ah, juste pour montrer que c'est possible puis que t'es pas obligé d'être parfait dans la prise puisqu'il y a du montage. Puis puisque, on répète très peu, mais c'est la façon de fonctionner. Puis il faut faire confiance à notre instinct ou à ce qu'on a. C'est ça, à notre instinct.
Sébastien, l'an passé, j'ai reçu Michel Charette, là où tu es assis.
C'est lui qui m'a dit de venir ici, d'ailleurs.
Ah oui,
tu vas voir, Sylvain.
Tu le salueras, il est correct.
il est correct.
Et avec Michel, la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez le temps de faire d'autres choses? Quand tu parles d'arriver sur d'autres plateaux puis d'avoir une interprétation, une observation différente, encore faut-il aller sur les autres plateaux? Est-ce que vous avez le temps?
Ça nous est arrivé. Michel, il s'est retrouvé sur Les Pays d'en haut. Moi, je me suis retrouvé sur La Dérape. Ce que ça implique, c'est que les fins de semaine, tu t'en vas tourner l'autre série. Assez difficile, par exemple, avec les horaires, avec les autres productions, de rentrer ça dans le calendrier, mais quand c'est possible, ça fait du bien aussi de faire autre chose, d'interpréter un autre personnage. Il y a ça qui est important, une question d'équilibre, puis à un moment donné, nous autres, on tourne 8 mois par année, mais il y a les fameux 4 mois de vacances où on est disponible pour aller faire
ça. Là, vous avez à répondre à des questions sur qu'est-ce qui va arriver avec ton personnage.
Penses-tu qu'on le sait? Voyons donc. Luc aussi, il est en vacances pendant ce temps-là.
Mais ça, c'est la question que je me posais. Est-ce que vous avez une idée d'un District 31, de ce qui va arriver à vos personnages? Je ne demande pas à long terme.
Ah non, pas du tout.
Même à court terme?
Ah non, à court terme, on ne le sait pas.
Tu pourrais apprendre la mort de Stéphane Pouliot en recevant ton texte.
Ouais.
Juste avant, Luc t'aurait appelé pour dire « Watch out ».
Ah oui, il va avoir la
décence de faire ça.
La décence de m'appeler, oui.
Parce que cet été, Gildard, dans une entrevue, à un moment donné, a dit « Je vais en perdre deux ».
Et c'était qui?
On a perdu Patrick Lavie.
Oui, OK.
Et tout de suite, le numéro 2, tout le monde passait à Stéphane Pouliot.
Ouais. C'était qui, finalement?
Je sais pas.
Mais attends un peu, c'était qui est décédé en début de saison? Ben, Laurent?
Patrick Labbé,
Oui. Mais.
Ça a brassé, mais un des principaux, on n'a pas perdu personne.
Non, c'est ça. Ben, en tout cas, je peux pas parler de ce que je suis.
Parmi les fans, et j'en suis, tu sais, j'ai pas mon chandail comme dans le temps des Boys, là, mais je suis fan. Puis je me disais, oh, Stéphane Pouliot, mauvaise fréquentation dans la vie.
Ouais, mais tu vois, quand, à un moment donné, Luc, il m'a appelé, j'ai fait, oh non, ça a juste
disparu.
Il m'a dit, ouais, écoute, tu vas te faire tirer. Oh non. Ouais, tu vas avoir 3 balles dans le dos. OK. Mais tu meurs pas. Ah, oh, OK, parfait. Fait que ça ressemble à ça, cette fois-là.
Mais d'être étonné par son personnage, c'est important. Là, c'est la combientième saison de...
On est en cinquième saison.
Ouais. Justement, de ne pas avoir l'usure de l'intrigue, parce que vous autres, vous seriez les premiers à ressentir cette usure-là.
Oui, mais ça serait nouvelle.
Quand tu as l'impression de te répéter année après année, saison après saison, à un moment donné, pour des comédiens et des comédiennes, ça ne doit pas être... Très
on n'est pas rendu là.
Ben, loin de là.
Puis, je dois t'avouer, en ces temps difficiles, j'ai certains de mes camarades qui ne travaillent pas, qui étaient supposés de faire des shows de théâtre. J'ai des camarades musiciens qui vont être obligés de...
Des films qui ont été mis de côté.
Des camarades musiciens qui vont être obligés de se réorienter, faire autre chose. Je peux-tu te dire à quel point je suis content et choyé d'avoir un travail puis de pouvoir... pouvoir faire mon métier.
T'sais, on voit Sébastien Delorme à la télé, heureusement. On a ça comme soupape avec l'équipe de District 31. Mais effectivement, les autres artistes, il se passe quelque chose. C'est une année bien triste. 2020 n'a pas existé pour la plupart du monde.
Non.
T'sais, parce que généralement, en musique, mois de janvier, février, c'est plutôt tranquille. Là, bang, le confinement au mois de mars.
Mm-hmm.
Donc, depuis ce temps-là, ça veut dire que ces gens-là, ça précède le confinement.
Tu vois, Magali Lépine Blondeau disait, tout le monde en parle, que ça faisait depuis le 12 mars qu'elle n'avait pas travaillé, qu'elle n'avait pas pratiqué son métier.
Dylan Tremblay me dit la même chose dans la même série.
Ouais, écoute, c'est... Mais je pense à tous les métiers de la scène, là, tu sais, ceux qui ont des shops de décors.
Ah oui.
Les concepteurs de costumes, les concepteurs de décors, les techniciens
sono,
de salle.
L'éclairage, tout ça.
Tout ça, je veux dire.
C'est un grand arrêt.
On parle
beaucoup de 2021, reportant 2021.
Oui.
Sauf que 2021, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore une année qui va avoir 365 jours. Là.
Oui, puis on est les derniers. Ben, je veux dire, on ne sera pas vaccinés tout de suite, contrairement
à ce qu'on a appris. On aurait donc voulu. Mais c'est pas des conditions faciles. Mm-hmm. Heureusement qu'il y a encore certaines sources de divertissement.
Oui. Ben,
on parle des services essentiels, là.
Est-ce que District en fait partie?
Ben, au niveau du divertissement, sûrement.
Oui.
Sûrement.
Je le pense. Quand mon poissonnier me dit « Hey, vous ne nous lâchez pas, hein? » Je veux dire, moi, c'est ce qui me rend de bonne humeur là, quand je rentre à la maison puis que je peux regarder mon District. Là, ouais. Ou bien non, les gens qui regardent en rafale les 4 épisodes de la semaine, ça fait le plaisir des gens. En plus, ils font ça en couple, souvent. Ils font ça « Hey, tu m'attends? » On le regarde ensemble. Je fais, ah, ben tiens, c'est ressemblant.
Oui, c'est ça, ou sinon en fin de soirée parce qu'on l'a enregistré.
Ouais, c'est ça.
Pour l'équipe de District 31, Sébastien,
ouais.
Quand vous êtes revenu au travail,
oui.
Là, il y avait une nouvelle mécanique à adopter.
Le protocole,
une distanciation. Nous, comme spectateurs, on l'a senti pendant un épisode,
ouais.
En observant vos mouvements.
Et la distance, surtout.
Puis on l'a complètement oublié. On a occulté cette question-là à partir de l'épisode 2 de la présente saison. Vous autres, ça a pris combien de temps avant que vous sentiez bien avec ce nouveau protocole-là?
Ce qui est étrange, en fait, là où c'est étrange, c'est l'ouverture des scènes. Où tu as tes deux belligérants qui sont à une distance qui est beaucoup trop importante.
Mm-hmm.
Mais si rapidement ton plan large disparaît puis tu rentres tout de suite, tu te rapproches et tu fais des gros plans et ainsi de suite, ben ils ont l'air rapprochés. Fait que mettons qu'on s'attarde pas sur le plan large, ça va très très vite, ce qui fait que tu t'en rends plus compte. Puis ben le casque principal, ben nous autres on peut être à 1 mètre de distance, mais sinon quand ça tourne pas, on est masqué, on a des lunettes de protection. Puis là il y a une nouvelle technique, il y a un plexiglas que tu peux installer en mettant ta caméra fixe Avec la post-prod, tu peux faire disparaître le plexiglas qui sépare les deux belligérants qui, eux autres, peuvent pas être à une distance... S'ils sont à 2 mètres, mais tu le fais disparaître le plexiglas qui nous séparait à l'origine pendant qu'on tournait la scène, puis on a l'air d'être à côté.
Parce que nous, en studio, on a un plexi.
Voilà. Mais la magie de la post-prod, ils disparaissent.
Ouais, en recevant Sébastien Delorme, j'ai l'impression de recevoir une visite en prison de Stéphane Pouliot.
Je vais sortir. Ça ne sera pas long, mon amour.
L'enquêteur Pouliot vient me visiter. Hein. La réalité, la fiction, hein. On est en plein dedans. Mais sans blague, Sébastien, on parle de l'équipe de District 31 puis du travail que ça vous demande. Déjà, vous avoir en entrevue, faut composer.
Faut trouver congé aujourd'hui.
Oui, mais justement, des congés. C'est vous ça. Autres, dans la vraie vie, là.
Ah non, j'ai jamais été.
Stéphane Pouliot, là.
J'ai jamais été aussi occupé que ça par rapport à. J'ai comme une vraie job. Du 5 jours semaine quasiment. Puis. Du 8 à 5, c'est parfait.
Est-ce que tu t'amuses?
Ben oui, je pensais jamais. Quand j'ai choisi ce métier-là, j'ai fait, ça va être le fun, les horaires seront hors de l'ordinaire. Puis finalement, je me retrouve dans une job qui a des horaires assez fixes et je suis pas mal sûr de travailler les 4 ou 5 jours semaine.
On est loin de la bohème.
C'est ça. On est loin de, j'ai une gig, je m'en vais en tournée, puis je reviens, puis après ça, 3 mois, je vais être libre. Non, c'est ça. J'ai plus... pas que je punch, comme si j'étais à la shop, mais...
Non, mais tu t'investis.
C'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème
à s'investir
Non. Mais c'est ce qui ressemble le plus à ce que probablement mes parents auraient voulu que je fasse. Envie d'avoir une job stable et payée.
Tes parents ont eu un problème avec ton choix?
Moi, mon père était médecin, fait que quand j'ai annoncé que je m'en allais en théâtre, ils ont fait Ouh, c'est peut-être pas une bonne idée.
Mais est-ce qu'il y a eu de l'opposition?
Non. Ils m'ont dit va essayer. Vas-y, c'est ça que tu veux.
Avec un certain doute.
Tu vois maintenant, même s'il y avait un doute autrefois, je peux pas les appeler à 7 heures le soir parce qu'ils regardent District 31. Non, dérange-nous pas. Fait que faut que j'appelle à 7h30. Fait que quelque part, j'ai comme réussi mon pari.
Ouais, mais c'est pas étonnant de prendre un rendez-vous avec un médecin pour jaser avec.
Ouais, c'est ça. Effectivement.
même quand c'est notre père. Mais c'est parce que le choix d'être comédien, je voulais revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais on va le faire tout de suite. Uh-huh. Le choix d'être comédien, ça se prend à quel âge, ça?
Tout dépend, là. Ça fait souvent que je le répète. Cette histoire-là, mais je me suis retrouvé au cégep. Il y avait une production théâtrale. Tu avais le choix soit de faire le travail écrit ou bien de jouer dans la pièce. Mais jouer dans la pièce m'intéressait. Ça avait l'air le fun. Puis le travail de 50 pages, ça, je l'avais déjà fait à plusieurs reprises dans plusieurs matières. Fait que je me suis dit, je vais faire ça. Bon. Ça s'était donné que j'ai eu du fun, mais vraiment du fun.
De trouver ton X.
Ouais. Puis c'est assez clair que au moment du salut sur la scène au collège André Grasset, Quand je saluais la foule, c'était un moment d'illumination. J'ai fait, mais c'est ça que je vais faire dans la vie.
Ça fait du bien.
Puis je me suis repenché une deuxième fois, puis c'est ça que je fais dans la vie. Mm-hmm. Fait que, je sais pas, il y a des moments de c'était clair dans ma tête. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai trouvé un coach, préparé des auditions pour les multiples écoles à Montréal, à Québec et ainsi de suite. Puis voir si j'avais le calibre pour rentrer de un là.
Oui, parce que c'est beau vouloir, là.
Ben oui, il y en a beaucoup qui veulent puis qui ont ce flash-là, mais...
Ou qui ont des parents qui les amènent très, très, très jeunes en audition pour pas faire des doubles,
effectivement.
Des publicités de tout ordre.
Mais...
ça, tu l'as pas eu.
C'est pas vrai, j'ai passé des auditions quand j'étais petit pour faire des pubs, mais je les ai pas décrochés. Parce que à un moment donné, ça va tout le temps se présenter. Ils cherchent tout le temps des kids pour jouer. Fait que je l'avais fait une ou deux fois, mais ça m'empêchait de jouer au hockey, ça m'empêchait de faire fait que j'ai vite tassé ça de côté.
Parce qu'évidemment, dans la vie de Sébastien Delorme, des sports, c'est important.
Ben oui, mais c'est l'équilibre, tu sais.
C'est l'équilibre.
Ben oui.
Bon, on va garder notre équilibre pendant quelques minutes, Sébastien Delorme. Vous écoutez Entre nous et on se retrouve dans quelques instants.